VOA Afrique, les infos à Washington.
Il est exactement 11h en temps universel, 12h à Cotonou. Irénée Herman Rombo avec vous pour ce bulletin d'information. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. En Tunisie, de nouveaux heurts ont éclaté cette nuit dans trois villes après l'immolation par le feu d'un journaliste à Kasserine dans l'ouest. Kasserine est l'une des premières villes où avaient éclaté fin 2010 des manifestations populaires contre la dictature de Zinedine Ben Ali. Est-on en train d'assister à un nouveau printemps arabe? Idriss Fall a joint notre confrère Mourad Selami, directeur de l'info du journal Le Quotidien à Tunis. On l'écoute.
Non, pas vraiment. Je pense qu'il s'agit d'un acte isolé qui dénote plutôt d'une situation sociale difficile vécue par des jeunes Tunisiens qui ne parviennent pas à faire face aux difficultés de la vie. Ce ne sont pas les mêmes prémices qu'en 2011 ou en 2010, non. C'est plutôt un rejet contre des difficultés plus qu'une explosion sociale généralisée.
Mais Sidi Bouzid, un jeune marchand ambulant, était aussi immolé par le feu.
Oui, je sais, mais depuis, les choses ont changé. Du moment qu'il y a eu pas mal d'immolations par le feu, sur les 8 ans vécus par la Nouvelle Tunisie, 2 ou 3 dizaines de gens immolés par le feu, le phénomène ne crée plus les mêmes réactions. D'ailleurs, même les réactions citoyennes lors des funérailles du journaliste Abderrazer n'ont pas été une occasion pour faire redémarrer l'explosion sociale. De l'avis même de tous les partis politiques, de la centrale syndicale, de la société civile, il y a même une éventualité que ce Abderrazer, que l'acte d'incendie, il est prémédité, oui, mais qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a fait incendier.
Oui, apparemment, le ministre de l'Intérieur dit avoir arrêté même une personne en rapport avec ça.
Ma source n'est pas le ministère de l'Intérieur. Ma source, c'est la vidéo que j'ai vue moi-même, plusieurs vidéos de plusieurs angles différents. Sur ces vidéos, il y a bien quelqu'un qui était juste derrière Abderrazer et lorsque le feu s'est déclenché, il s'est enfui un peu.
Et vous pensez que ces tensions sociales, le gouvernement a les moyens de régler les problèmes de pauvreté dans l'ouest de la Tunisie?
Pas vraiment. Mais il ne faut pas oublier qu'en 2010, l'UGTT, c'est-à-dire les syndicalistes, étaient avec la révolte populaire. La classe intellectuelle était aussi contre Ben Ali et avec le soulèvement populaire. En ce moment, tout le monde est conscient des difficultés traversées par la Tunisie. Par conséquent, les réclamations ne sont pas telles qu'elles étaient en 2010. C'est-à-dire qu'il y a une conjoncture générale en 2010 qui n'est pas la même en 2018.
En RDC, le report pour mars des élections à Beni, Boutembo dans l'Est et à Yumbi dans l'Ouest suscite encore des réactions. Beaucoup se demandent si les résultats de la présidentielle qui se tiendront 3 mois après la publication des résultats prévus le 6 janvier et l'installation du nouveau président seront pris en compte. Dossier avec Eddy Sango.
À la question de savoir si les résultats de la présidentielle de ces 3 entités pourraient être pris en compte et de quelle manière, la CENI se réfère aux mesures d'application de la loi électorale. Suivons les explications du rapporteur de la CENI, Jean-Pierre Kalamba.
Il faut lire le texte de l'ordre du Congo, il faut lire l'article 84. Il est prévu que dans des conditions exceptionnelles, si la CENI n'arrive pas à organiser les élections dans certaines circonscriptions, le processus continue, on définit tout ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on dira, on ne tiendra pas compte, il n'y a pas eu élection. Non seulement pour Ben, si le jour de vote qui se déroule là, un bureau où il ne se considère pas aussi à la possibilité d'organiser les élections. Encore, on fait les calculs sur les voies disponibles, c'est ce que dit la loi.
Les différents partis ont réagi à ces reports. Les Fonds pour les Congo, coalition au pouvoir, qui est derrière les candidats Emmanuel Ramazani Shadary, soutient la décision de la CENI. Mais l'opposition ne l'accepte pas, mais affirme qu'elle ira tout de même aux élections dimanche 30 décembre. Le secrétaire général de l'UDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, Jean-Marc Kabound, l'a dit à VOA.
L'usage d'un cafouillage total auquel le peuple congolais sera appelé à vivre. Donc c'est inconcevable que la CENI, déjà après un report du 23 pour le 30, qu'elle ne soit pas à même de remettre au regroupement et partis politiques qui voudraient accréditer leurs témoins des macarons d'accréditation. C'est dommage, vraiment. Vous allez constater avec nous que la CENI n'était pas prête, ou carrément, elle faisait semblant d'organiser les élections, mais tout en n'étant pas prête. Donc, nous avons délégué le président de la CEP et une délégation, en fait d'une délégation de l'UDPS à la CENI, pour tirer cette histoire au clair. Comment est-ce que nos témoins accrédités n'ont pas encore de macarons, ou ils ne veulent pas la présence de ces témoins dans des bureaux de vote, qu'ils nous le disent?
Cette décision est la même pour la coalition Lamouka qui soutient l'opposant Martin Fayoulou. Mais à Béni, des membres de ces cartels ont promis de manifester et ont appelé la population de ces territoires à aller massivement dimanche au lieu de vote pour faire acte de leur devoir citoyen, quand bien même leurs voix ne seront pas officiellement prises en compte.
Parlons toujours de la RDC. Cinq chefs d'État africains réunis hier à Brazzaville ont exprimé leur vive préoccupation face aux actes de violence pendant la campagne électorale en République démocratique du Congo. Malgré l'absence des autorités de Kinshasa à cette rencontre, un appel à l'apaisement et à la retenue a été lancé à la classe politique et à la société civile. Le président du Gabon, Ali Bongo Ondimba, s'adressera à la nation lors d'un discours du Nouvel An depuis Rabat, où il se trouve en convalescence, a annoncé à l'AFP, une source proche de l'entourage du chef de l'État gabonais. Ce sera la première prise de parole de M. Bongo depuis qu'il a été hospitalisé le 24 octobre en Arabie Saoudite à la suite d'un accident vasculaire cérébral AVC. Au Gabon, même trois dirigeants de partis d'opposition ont demandé qu'une équipe médicale constituée sur une base consensuelle aille voir le président à Rabat pour déterminer s'il est en mesure d'assumer ses fonctions. Si ce n'est pas le cas, la vacance de pouvoir devrait être déclarée conformément à la Constitution, selon eux. Rwanda, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais Juvenal Habyarimana le 6 avril 2014, ont rendu une ordonnance de non-lieu, a-t-on appris hier de sources judiciaires. Le parquet a estimé que l'enquête n'avait pas révélé de charges suffisantes pour justifier de renvoyer devant un tribunal les 8 personnes mises en examen dans ce dossier, la plupart proches de l'actuel président rwandais Paul Kagame.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le Parlement israélien a voté mercredi en faveur d'un projet de loi visant à dissoudre cette assemblée et à organiser des élections anticipées le 9 avril. La loi prend effet immédiatement, le Parlement étant dissous jusqu'aux élections, tout juste 4 ans après le dernier scrutin en mars 2015. Le gouvernement reste en place, mais ne peut pas prendre des décisions nécessitant l'accord du Parlement comme le vote de nouvelles lois. Le président Donald Trump et son épouse Melania se sont rendus hier en Irak. Il s'agit de la première visite du président américain en zone de conflit depuis son élection il y a 2 ans. Le point avec John Linden.
Le président a atterri hier soir sur la base aérienne d'Al-Assad, à l'ouest de Bagdad, dans la province d'Al-Anbar. M. Trump a défendu sa décision de retirer les troupes américaines de la Syrie lors de cette visite surprise. Il a déclaré que beaucoup de gens vont adopter sa façon de penser, ajoutant qu'il est temps, et je cite, que nous utilisions notre tête, fin de citation. Accompagné de la première dame, Melania Trump, ils ont passé 3 heures à rendre visite aux troupes américaines. M. Trump et la première dame des États-Unis se sont envolés pour l'Irak tard le soir de Noël afin de remercier les soldats américains pour leur engagement, leur succès et leur sacrifice, et pour leur souhaiter joyeux Noël, a écrit la porte-parole de la Maison-Blanche, Sarah Sanders, dans un tweet accompagné d'une photo montrant le couple en compagnie de jeunes militaires américains.
Je le disais un peu plus tôt, au Rwanda, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais Juvenal à Habyarimana le 16 avril 1994 ont rendu une ordonnance de non-lieu, a-t-on appris hier de sources judiciaires. Ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.